Les informations de Babel Congo. Bipartite Ouganda RDC, les négociations entre les délégations ministérielles ont commencé cet avant-midi. Dans ce journal, vous suivrez les propositions des experts sur entre autres la politique et la sécurité. Dossier de l'Antonov disparu il y a plus de deux mois après son décollage à Kisangani, le collectif des jeunes Kojeski vient d'adresser un mémorandum au chef de l'État. Il appelle les institutions congolaises à sortir du silence. Et puis, sept journalistes de la presse écrite sanctionnés par l'Union nationale de la presse congolaise. Ceci fait suite, selon l'UNPC, aux plaintes des personnes victimes des propos malveillants parus dans les articles de ces journalistes. Des détails tout à l'heure. Bonsoir à tous. Bipartite Ouganda RDC, les négociations entre les deux délégations ministérielles ont commencé cet avant-midi par le briefing des experts à leurs délégations ministérielles respectives avant les négociations ultimes cet après-midi. Le rapport des experts formule des propositions sur un certain nombre de questions d'intérêt commun dont la politique, la sécurité, la diplomatie et l'économie. Des éléments de ce rapport des experts avec Nazar Koko.
Sur le plan économique, les experts recommandent l'exploration ainsi que l'exploitation commune du pétrole au bloc 2 dans le lac Albert par la même société Tullo Oil qui a déjà commencé l'exploration sur la partie ougandaise. Cependant, les Congolais ont indiqué vouloir garder une liberté dans les choix des investisseurs dans le même bloc, de la même manière qu'ils ont signifié exploiter pour le Congo seul le pétrole au bloc 1, 3, 4 et 5. Sur le plan sécuritaire, l'élimination des forces dites ici négatives aux frontières de deux pays se fera selon le plan d'action présenté par la RDC, l'un et la de concert avec la MONUC. La promotion de la sécurité aux frontières recommande par ailleurs l'installation des agents du bureau de liaison d'ici la fin de cette année, bureaux qui seront opérationnels dès janvier 2008. Concernant l'île de Rukwanzi, les experts ont recommandé la mise sur pied d'une administration et d'une police commune. Par ailleurs, pour la délimitation des frontières, la commission mixte ad hoc devra se réunir dès la première quinzaine de janvier 2008 à Bunia pour résoudre les différends à partir des données recueillies. Sur le plan diplomatique, les experts recommandent le rétablissement des relations diplomatiques au niveau des ambassades. L'Ouganda a à cet effet indiqué que son ambassadeur désigné attendait l'agrément du gouvernement congolais. Ce dernier a assuré par le biais de son ministre des Affaires étrangères communiquer très prochainement le nom de son ambassadeur à Kampala. Les négociations au niveau des ministres devront permettre la signature de plusieurs accords entre les deux pays. Kampala, Nazar Nkoko, Radio Kapi.
Au nord Kivu, la population de Masisi Centre regagne progressivement la cité après la panique de mercredi dernier, aux paniques dues aux tirs entendus depuis le village de Katale. Selon les responsables administratifs sur place, la situation est calme, mais la population n'est pas complètement rassurée. Depuis Goma, a des détails avec Rosalie Zawadi.
Plus de la moitié de la population de Masisi Centre a de nouveau passé la nuit dans la brousse ou dans les villages environnant la cité. C'est ce qu'a déclaré l'administration du territoire de Masisi qui ajoute que les habitants sur place ne sont pas encore certains de leur sécurité. Justin Mukanya indique que c'est d'une manière timide que la vie reprend sur place. Par exemple, les écoles n'ont toujours pas ouvert leurs portes depuis hier. La plupart des élèves ainsi que les personnels enseignants étant encore en brousse. Pour d'autres habitants joints sur place, ils sont réconfortés par le retour des éléments FRDC dans les villages de Katale à une dizaine de kilomètres de la cité de Masisi. Contactés, les commandant des FRDC sur place indique qu'ils occupent leur position depuis hier soir. De son côté, le commandant du district de la police à Masisi Centre affirme que ces éléments assurent la garde des biens des civils qui sont encore en brousse. Les habitants de Masisi espèrent voir toutes les activités reprendre normalement grâce à la sécurité assurée par les FRDC à Katale. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Au sud Kivu, les habitants de la cité de Kamaniola, à quelques 60 km au sud de Bukavu, ont protesté aujourd'hui contre les tracasseries policières. Plus de 300 personnes issues des différentes organisations de la société civile locale sont descendues dans les rues pour dénoncer notamment des arrestations arbitraires et des amendes exagérées. Sur leur banderole, ils exigent le départ du commandant de la police sur place et le départ définitif d'un ancien chef de poste administratif. De Bukavu, Didas Namujimbo.
Parti du marché central de Kamaniola jusqu'au bureau du poste d'État, les manifestants ont remis aux autorités un mémorandum dans lequel ils ont dénoncé des détentions illégales, des exactions et multiples violations des droits de l'homme commises selon eux par la police locale. Le président de la société civile, Jetem Mouleba, a cité comme dernier exemple la libération sans jugement fin novembre par la police, des présumés violeurs arrêtés par la population et remis à la police. Pour ceci, entre autres, les habitants de Kamaniola ont exigé le départ du responsable responsable de la police. Contacté, ce dernier, un lieutenant, réfute toutes ces accusations et dit se réserver de tout commentaire. L'autre mobile de la marche, la population a dénoncé la réinstallation après suspension d'une ancienne chef de poste administratif, Henriette Kabake-Ouseni. Signalons également que certaines ONG locales, membres de la société civile, tels Grenier, Dorcas ou encore le collectif des femmes de Kamagnola, se sont abstenus de prendre part à la marche d'aujourd'hui. Encadrée par la police, cette manifestation s'est déroulée dans les calmes. Didas Namujimbo, Bukavu, Radio Okapi.
En Ituri, plus de 500 ex-combattants démobilisés reçoivent depuis ce matin à Bunia des vélos pour leur réinsertion communautaire. Tous ces ex-combattants démobilisés en 2006, ce sont ceux qui ont choisi l'élevage et la pêche comme activité de réinsertion. Selon le programme des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO, qui a mis à leur disposition ces vélos, cette action va aider ces démobilisés et autant les transports de leurs produits agricoles. Jean-Claude Loki nous en parle.
Ces ex-combattants proviennent notamment de Lopa, de Nizi en territoire de Djougou, ainsi que de Zoumbé et de Bounia en territoire d'Irumu. Ils reçoivent les vélos de l'Association pour l'encadrement des jeunes de l'Ituri, AEJ en sigle, une ONG locale partenaire de la FAO. John Lobo, l'un des bénéficiaires, explique comment il va utiliser son vélo. Je suis content de recevoir mon vélo car cela pourra me faciliter les déplacements pour fréquenter mon champ. Mais également, je pourrais commencer à pratiquer de petits commerces. Cela va m'aider pour le transport de ma marchandise vers les marchés. À la question de savoir pourquoi le choix de vélo dans le programme de réinsertion de ces ex-combattants, Dr Jules Vianney Matabou, consultant à la FAO, a donné cette explication.
Le souci majeur, c'est pouvoir les aider. Parce que le vélo, c'est un engin qui va les aider pour les transports de leurs produits agricoles à la fin de leur production. Quand ils ont un vélo, ça peut les aider à pouvoir commercialiser les produits de leur champ.
La même source indique que la distribution des vélos ne constitue que la première partie de matériel prévu pour la réinsertion communautaire de ces ex-combattants. La prochaine étape consistera à la remise des chairs, moutons et porcs. Bounia, Jean-Claude Loki, Radio Capi.
Affaire de l'Antonov disparu il y a plus de deux mois, le Kojeski revient à la charge. Le collectif des organisations des jeunes solidaires du Congo Kinshasa vient d'adresser un mémorandum au chef de l'État. L'avion qui quittait Kisangani pour Goma avait à son bord des marchandises et 7 Congolais, dont un conseiller du ministre de l'Énergie. Le Kojeski appelle les institutions à sortir du silence dans ce qu'il qualifie de prise d'otage. Écoutez Fernandez Morola, coordonnateur de Kojeski, au micro de Georges Kamujova.
Lorsque un citoyen congolais en difficulté et que toutes les institutions de la République ne fassent pas signe de vie, ça nous inquiète. Nous nous disons bien sûr que tout ne marche pas en République démocratique du Congo, mais pas jusqu'à ce niveau. L'Antonov embarque les marchandises, embarque les Congolais à destination de Goma, mais au lieu de se rendre à Goma, l'Antonov prend une autre destination inconnue jusqu'à présent. C'est un appareil qui était régulièrement affrété par les forces armées de la République. Mais entre-temps, on n'a pas les nouvelles de ses concitoyens. On ne sait pas ils sont dans quel état, peut-être ils font actuellement l'objet de tortures et d'autres traitements inhumains ou dégradants. Nous avons élu nos dirigeants pour que, de manière prioritaire, ils se préoccupent de la vie de leurs concitoyens. Et donc, il ne faut pas que les institutions de la République arrivent à se dérober. Si notre démarche auprès du gouvernement n'arrive pas à trouver satisfaction, nous allons, bien entendu, faire une plainte contre notre gouvernement, notamment auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et à la prochaine session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.
Dans la voirie, signalons le début des travaux de réhabilitation de la nationale numéro 1 à la hauteur de Binza Village, ici à Kinshasa. La société EGM du groupe Mike est chargée de l'exécution des travaux sur cette route de grande importance érodée depuis les dernières pluies qui se sont abattues sur la capitale. Contacté sur place, Serge Chimanga, coordonnateur technique de cette société, parle du déroulement des travaux et de leur durée d'exécution au micro de Cédric Kalongi et Onésime Mukandila.
Ce sont des grands travaux parce qu'ici, il y avait une grande érosion. Nous avons procédé d'abord par les travaux de la lutte anti-érosive qui sont presque vers la fin. Puis nous allons réaliser la construction normale de la chaussée. La longueur de l'érosion était à environ 500 mètres. Les travaux sont financés entièrement par l'entreprise. C'est un préfinancement. Étant donné que c'est la route nationale numéro 1, c'est une route d'une importance capitale. Ici, nous travaillons jour et nuit, sans frein, non-stop. C'est pour que nous puissions parvenir à terminer ces travaux le plus vite possible. Je peux vous promettre que déjà tout au plus dans 3 jours, on aura déjà terminé à recharger toutes les couches de notre chaussée. Dès que nous aurons terminé, 3 jours encore c'est trop, on aura déjà revêtu la chaussée, donc il y aura déjà le macadam.
Les habitants de Binza Village saluent la relance de ces travaux, mais insistent sur une bonne canalisation des eaux de pluie pour éviter de nouvelles érosions. En bref, l'Assemblée nationale procède aujourd'hui à l'adoption du budget de l'État pour l'exercice 2008. Ce budget est arrêté à environ 3 milliards ou 600 millions de dollars américains. Mais auparavant, la plénière a procédé à la vérification et à la validation des mandats des sous-suppléants en remplacement de 6 députés décédés ou nommés au sein du gouvernement. Elle a aussi enregistré une motion à transmettre au gouvernement, motion demandant la construction d'un mausolée pour l'ancien président décédé Mobutu Sese Seko, ainsi que le patrimoine de sa dépouille. Cette journaliste de la presse écrite sanctionnée par la commission de discipline et d'éthique professionnelle de l'UNPC, Union nationale de la presse congolaise. Il s'agit entre autres de Freddy Mansa, directeur de publication du quotidien Le Potentiel, de Willy Chitenge et Claude Onyembwe de Uhuru, pour ne citer que ceux-là. Ceci fait suite aux plaintes de tierces personnes victimes de propos malveillants parus dans les articles rédigés par ces journalistes. La décision est tombée mercredi dernier au cours d'un point de presse tenu au siège de l'Association des éditeurs des journaux du Congo. Chantal Kanimbo, présidente nationale de l'UNPC, explique ces mesures au micro de Olga Ndombassi.
Deux cas de blâme et d'avertissement, trois ou quatre cas de suspension et puis un cas ou deux cas d'exclusion temporaire.
Et pensez-vous que ces mesures seront appliquées?
Mais écoutez, quand on a organisé en tant que corps d'une profession qui édite elle-même ses règles d'éthique et de déontologie, on doit accepter les décisions prises par les instances d'autorégulation parce que, comme vous le savez, la commission des disciplines et d'éthique professionnelle est appelée tribunal des pairs dans la mesure où nous sommes nous-mêmes à même d'examiner qui a respecté le code d'éthique et de déontologie et qui n'a pas respecté et de sanctionner à l'instar d'autres corps comme l'ordre des avocats ou l'ordre des médecins. Ce sont ces instances-là qui sanctionnent les fautes professionnelles commises par ces membres.
Dans le domaine de l'enseignement de l'Équateur, la publication des résultats des examens d'État 2007 continue de provoquer pleurs et grincements des dents chez les habitants de Lukolela. 310 finalistes sont concernés. Selon Mme Clémentine Bonnet-Bé, inspectrice principale provinciale, toutes les options ont réalisé les résultats néants suite à une fraude massive. Cependant, la population qui manifeste dans la rue à chaque publication des résultats accuse plutôt les délégués de l'EPSP qui avaient supervisé cette session. Cet avis est partagé par les députés élus de Lukolela, l'honorable Alexis Isangola. Il est au micro de Paul-Richard Malengela.
À l'issue de la proclamation des résultats de ces examens d'État, édition 2007, au centre de Lukolela 1, aucun candidat n'a pu satisfaire aux épreuves, sauf l'exception. Pour cause de fraude, d'après ce que nous avons lu à travers les palmarès, nous avons essayé de contacter Kinshasa pour vérification. On nous dira que tout était parti du rapport qui a été rédigé par les délégués du centre. Nous avons essayé de mener des investigations sur le terrain. Il s'est avéré qu'il ne s'agissait que de quelques cas isolés à travers les centres qui ne pouvaient que frapper quelques candidats qui étaient attrapés par la tricherie. Alors, la question qui nous reste à nous poser est la suivante. De quel type de fraude ces délégués ont-ils fait allusion? D'autant plus que cette histoire ne peut pas frapper tout un centre. Et il ne faut pas accepter que toute une génération mentale soit sacrifiée pour des causes qui ne sont pas bien fondées.
En réaction, l'inspectrice provinciale principale de l'EPSP Équateur 1 a tenu à expliquer que le centre de correction à Kinshasa aurait bien tenu compte du rapport de délégués, car il a été noté que la population s'était infiltrée dans ce centre lors des examens pour favoriser la tricherie. Le même comportement était aussi observé à Guadolité. Dans cette ville, 29 élèves de la section commerciale de la fondation Maman Mobutu qui n'ont pas satisfait aux examens d'État ont séquestré hier le préfet de leur école et son proviseur dans les bureaux. Terminons au Kasaï oriental où un bras de fer oppose en ce moment la division provinciale de la culture et des arts au fonds de promotion culturelle. Les deux services se disputent le recouvrement des taxes. Conséquence, une dizaine de maisons de vente et cassettes, disques et autres supports audiovisuels sont scellés dans tous les marchés de Mbujimayi. Plus de détails avec Nick Mputu.
C'est depuis le début de cette semaine que le scellage a débuté dans toute la ville de Mbujimayi. Une dizaine de maisons de vente de cassettes et CD ont été contraintes de fermer leurs portes. Tibanda Daouda, directeur provincial de fonds de promotion culturelle, considère qu'après plusieurs années de sensibilisation à la culture fiscale, locales, l'heure du recouvrement forcé a sonné. Il argumente que les revendeurs doivent désormais payer une redevance au fonds de promotion culturelle qui s'élève à 5% de leur chiffre d'affaires. Cette démarche de scellage est contestée par la division provinciale de culture et arts. Tarsis Tshibangu, chef de division de culture et arts, déclare que les procédures de recouvrement forcé ne sont pas respectées. Il juge illégale la pratique initiée par le fonds de promotion culturelle et lui suggère de se conformer à la loi du 31 mars 2004 portant restructuration du budget pour le compte de la division. De leur côté, les propriétaires de maisons et kiosques disent que le fonds de promotion culturelle leur exige une somme allant de 1 000 à 3 000 dollars américains. Ils affirment qu'ils sont en règle pour avoir déjà payé les taxes de l'État à la division de culture et arts. Mbujimayi Nikemputu, Radio Okapi.